Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
After Marseille.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, l'After Marseille est là comme toutes les semaines, l'actu de l'OM, évidemment analysé par nos spécialistes de l'After, aujourd'hui vont vous parler de Gattuso. Bah ouais, on a choisi de parler de Gattuso, on a choisi de ne pas parler de caillassage de bus, ni de salut nazi dans les parkages visiteurs. On va revenir un peu au sportif, et d'autant que Gattuso a donné une conférence de presse très intéressante aujourd'hui même où nous enregistrons ce podcast. Florent Germain est là, en direct de Marseille comme toujours, salut Florent.
Salut Gilbert.
Et Walid Acherchour aujourd'hui qui est avec nous. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut Florent.
Ça change un, salut, peu, ça change un peu de coach Courbis. Voilà, il y a moins d'accent.
Et en vrai, il y a de la qualité. Hein.
Mais il y a de la qualité, quand même.
Merci Florent, c'est gentil.
Allez, c'est parti. Alors Walid,
oui.
Nous on est là à Paris dans notre studio. Mais je vais te dire un truc. J'ai l'impression que le père Gattuso, il fait un peu la danse du serpent aux médias marseillais. Tu vois, Florent Germain, il est là, il leur fait, tu vois, la petite danse du serpent qui sort du panier.
Ah, il est bon, Gattuso, hein.
Qu'est-ce qu'on est bien ici à Marseille, vous charme, et bientôt je vais vous ramener du saucisson, nanana. Et là, aujourd'hui, il a encore fait une conférence de presse, et hop, pam, l'entraînement est ouvert, et c'est génial, et Marseille, on kiffe. Franchement, toi, avec ton expérience, ta bouteille, comment c'est
pas
possible?
Pas toi, pas maintenant.
Voilà.
Non, mais attends.
Pas après le tout problème, ce que tu as fait.
Voilà, j'allais le dire, mais bon, quand même. Le problème, c'est qu'à force, d'être trop en studio, des fois, vous analysez tout en pensant que c'est que de la com. Et moi, je pense qu'il est sincère. Mais je pense qu'il est sincère. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, on pourrait faire un petit focus sur la com de Gattuso, parce que on en a vu passer à l'OM hein, des coachs très calculateurs, et puis vous en entendez plus que moi parce que ça concerne tous les clubs, et c'est aussi l'histoire du foot d'avoir des coachs ou des joueurs qui calculent leur prise de parole. Donc évidemment Gattuso parfois il y réfléchit et que il y a peut-être une petite part de stratégie, mais je pense que globalement ce qui fait sa force dans sa communication, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, et mais pas que, parce que ce qui fait sa force aussi avec les joueurs, c'est que beaucoup disent nous on l'aime bien parce qu'il est sincère. Et nous journalistes, consultants, observateurs, on a besoin de cette sincérité, on n'arrête pas de le répéter, que on a besoin d'avoir des coachs ou des joueurs qui te disent ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Et c'est vrai que on enregistre jeudi, et moi j'ai bien aimé sa prise de parole suite aux incidents. D'ailleurs on va l'écouter, tiens, pour se baser par rapport à ça. C'est que au-delà de l'émotion que ça a suscité, il a un message que pourraient presque avoir des Marseillais, et je pense pas qu'il surjoue. On l'écoute, Gennaro Gattuso, quand on lui a demandé justement quelle était sa réaction, sa première réaction après les graves incidents de dimanche dernier.
Je pense que ce match contre Lyon, c'est une défaite pour tout le monde. Quand on voit un stade comme le Vélodrome avec 65 000 personnes et des enfants qui étaient avec leurs parents et qui pleurent parce que le match n'a pas pu être joué à cause de 4-5 personnes qui ne sont pas, pour moi, des supporters de l'OM, c'est très difficile à accepter. C'est une défaite pour le football en général. Je suis triste que ça soit quelque chose qui arrive à Marseille. Ça fait un mois que je suis ici, je reçois des appels où des personnes pensent qu'il y a tous les jours des problèmes. Alors qu'on a perdu que 2 matchs, on travaille bien, ma famille peut se promener tranquillement. Moi, je me promène un peu moins parce que je suis la plupart de mes journées au centre d'entraînement. Mais on vit bien ici. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Les personnes qui ont fait ça ne sont pas des supporters du club et ça nous laisse sans voix.
Il répondait à une question de la RAI, en fait, parce qu'il y avait des journalistes italiens qui étaient présents en conf de presse et qui insistaient beaucoup sur l'image déplorable qu'ont les incidents et les différents événements sur l'OM et sur Marseille. Et en fait, J'ai eu le sentiment que, avec sincérité, avec naturel, il avait cette phrase, il endossait quelque part ce rôle de défenseur de l'OM et de Marseille. C'est vrai que c'est un sujet qui tient à cœur aux Marseillais, c'est que parfois on a l'impression que on dépeint l'actu de cette ville et de ce club de manière très négative. Et malheureusement, il y a toujours des incidents qui viennent, et c'était le cas autour d'OMOL dimanche, ternir cette image. Mais que derrière, il y a une vie qui se passe, quoi, avec du travail qu'on peut faire sereinement. Enfin, il le dit, Gattuso, c'est pas je peux sortir dans la rue et me balader avec ma famille, quoi. Donc, je veux surtout pas que vous ayez cette image-là de Marseille. Et je pense que ce discours-là, il y a beaucoup de supporters qui se sont retrouvés en lui et qu'il a trouvé les mots justes. Alors, vous y verrez peut-être vous de la com, mais moi, je trouve qu'il a été sincère et qu'il a touché juste dans ces paroles-là.
Walid, t'estimes qu'il est bon là? Enfin, en tout cas, il colle avec ce qu'on attend de lui?
Là, globalement, on en avait parlé dans Génération After, dès sa première prise de parole en termes de communication. Moi, j'étais un peu sceptique à son arrivée par rapport à ce qu'il pouvait laisser comme empreinte dans le jeu sur ses précédentes missions avec Valence, avec l'AC Milan, avec le Napoli notamment, même si tout n'était pas à jeter. Mais dès la première prise de parole, moi, il m'a eu. Sur sa communication, sur tout ce qu'il disait sur ses individualités. Je me rappelle notamment d'Amin Harit, ou sur le jeu, quand il avait expliqué que le Gattuso joueur n'avait rien à voir avec le Gattuso entraîneur. Et puis même derrière, dans ses compositions d'équipe, dans ses choix d'hommes, que ce soit sur le match contre Brighton ou même sur le match contre Le Havre, ou même s'il y avait eu quelques blessures et suspensions, j'avais trouvé l'équipe quand même très très offensive. Il a remis certains joueurs à leur place. Donc globalement, moi je trouve les débuts sont très intéressants. Maintenant, on voulait voir après ce résultat positif contre la UEK Athènes une continuité dans les résultats pour véritablement composter son
pour l'instant il a que deux victoires
son arrivée à l'Olympique de Marseille, on n'a pas pu l'avoir dimanche. Donc on va voir ce qui va se passer contre Lille et contre la EK Athènes là-bas, et là on en saura un peu plus. Mais oui, sur la communication, Gilbert, moi je le dis, globalement pour l'instant c'est un sans faute de la part de Gattuso. Maintenant il n'y aura pas que la communication. Si les résultats sont pas bons, si le jeu n'est pas bon sur les prochaines semaines, on le dira tranquillement.
Et lui aussi, parce qu'il nous a fait cette promesse et on n'oubliera pas de le lui rappeler. C'est pour ça que c'est pas une danse du ventre et que il nous a pas charmé au point de nous endormir. Il y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que quand il y aura des défaites, et puis parfois on voit bien qu'il y a des questions qui l'agacent un petit peu. Par exemple, puisqu'on est sur la com, il aime pas trop qu'on chatouille sur Vitinha Aubameyang ou en gros globalement sur les individualités. Quand il veut pas trop se mouiller, c'est peut-être le petit bémol que je mettrais, parce que il veut encore concerner tout son vestiaire et là-dessus il y va pas trop à enflammer un joueur, ou si il faut en critiquer un autre, il y va pas trop. Mais par contre, il nous a dit, vous verrez bien, j'arriverai pas à me cacher le jour où je serai énervé. Et il dit, je suis pas un acteur, je suis quelqu'un de sincère et j'arriverai pas à tricher dans ma communication. Et j'insiste sur un point, c'est que souvent les joueurs on nous glisse que ils aiment pas quand ils ont face à eux un entraîneur qui tchatche et qui vous endort un petit peu par des grands discours. T'inquiète pas, je compte sur toi, mais tu vas jouer bientôt, et finalement ils jouent jamais. Donc eux, ils préfèrent avoir un coach qui leur dit les yeux dans les yeux ce qui ne va pas, et donc cette sincérité qui nous plaît à nous journalistes, je pense que les joueurs en ont besoin également, et c'est revenu dans pas mal d'interviews depuis que Gattuso est arrivé. Donc c'est pour ça que je pense que il n'y a pas que ça. Alors Walid a 100% raison, il y aura évidemment le terrain, la tactique, les résultats, tout ça qui sera primordial.
Mais en tout cas, il colle.
C'est une partie de la réussite.
On ne sait pas ce qu'aurait donné Marcelino sur la longueur, mais on a l'impression quand même que ce soit dans la communication et même dans ce qu'il veut mettre en place dans le jeu, un jeu fait de courses, un jeu, je vais pas dire ambitieux, mais avec la volonté de montrer du spectacle dans le choix des hommes, techniquement notamment, avec Ndiaye, avec Harit, avec un Ismaïla Sarr quand il a mis un peu Unai, maintenant il l'a sorti parce qu'il n'avait pas été bon contre Nice, mais on sent quand même que ce soit dans la communication et même dans les intentions, pour l'instant ça colle beaucoup plus à l'Olympique de Marseille. Maintenant il va falloir que les résultats arrivent, parce que même quand tu perds contre Nice, bon, je trouve que le match aurait mérité un bon match nul. Et si on parle du carton rouge de Balerdi, mais il y a la grosse occasion d'Aubameyang juste avant, même contre Monaco, c'est l'un de ses premiers matchs, voire le premier match, et globalement t'es dans la rencontre et tu montres des choses intéressantes. Donc même quand il perd pas avec deux lignes de quatre en ne proposant pas grand chose. Donc sur ça c'est déjà un bon point. Maintenant on va voir contre Lille, là il y a un bon test, et contre la EK Athènes, Lens joue derrière aussi à Bollaert. Ça va être des juges de paix sur le Gattuso entraîneur, lecture de match, composition, qu'est-ce que vont faire ces joueurs. Et là on tirera quand même des premiers enseignements, pas définitifs, mais des premiers enseignements intéressants.
En fait, c'est un peu les 100 jours, comme on dit, oui. Quand un président de la République arrive.
C'est ça. On le découvre.
C'est l'état de grâce, quoi, en quelque sorte.
L'état de grâce, j'irai pas jusque là, mais peut-être dans la communication, ça fonctionne bien. Mmh. Parce que pour l'instant, comme tu l'as dit, ils ont gagné contre le Havre et contre la EK Athènes.
Oui, il y a que deux victoires.
Donc pour l'instant, c'est pas.
Enfin, Marcelino, il a pas eu 100 jours, mais il a pas eu d'état de grâce non plus. Hein.
Oui, aussi.
Je rassure. Non, mais je dis ça parce que puisqu'on parle de com, Marcelino, qui est quelqu'un que en plus j'apprécie et qui est respectable, mais en termes de com, Gattuso est au-dessus, puisque c'est le sujet de notre podcast. Marcelino, là depuis qu'il est parti à distance, à chaque fois qu'il est interrogé sur l'OM, on a l'impression qu'il y est resté 5 ans et qu'il est légitime à donner son avis sur tout, les ultras, les supporters, le contexte, le ci, le là, les réunions. J'ai l'impression que Gattuso comprend mieux les choses. Je ne sais pas si ce sont ses origines calabraises, son expérience de grand club à Milan, ou le fait qu'il ait aussi connu le Napoli, mais j'ai le sentiment qu'il est plus taillé pour parler de Marseille et de l'OM que au final ne l'était Marcelino. Et dans un club comme l'OM qui est ultra médiatisé, je pense que ça a quand même son importance, parce que voilà, les supporters sont omniprésents, les émissions aussi, et donc quand tu as quelqu'un qui te représente, parce que faut quand même pas oublier la com, c'est une partie immense, c'est devenu une partie immense du métier d'entraîneur. Nous avec la chaîne RMC Sport, on a la chance de pouvoir faire des interviews avant les matchs de Coupe d'Europe. Ils sont presque épuisés avant d'aller à l'échauffement ou de coacher le match, les entraîneurs, tellement ils ont d'interviews et de représentations de leurs fonctions. Je suis même surpris qu'un coach ait autant de sollicitations médiatiques. Donc c'est pour moi un domaine qui est primordial, qui est très important. Et pour moi, Gattuso, il le maîtrise bien depuis qu'il est arrivé à Marseille.
Non, mais surtout,
qu'un petit mois.
Je pense que Gattuso a compris, certains entraîneurs sans doute l'ont pas vraiment compris de leur côté, c'est que en fait les médias ne sont que l'intermédiaire entre eux et le public. Voilà, ben nous
oui.
On est là. Florent Germain, il va à la conférence de Gattuso, il y va pas pour lui tout seul se faire plaisir, et puis se réécouter l'interview dans son salon. Je veux dire, voilà, donc.
Mais t'as raison que.
Non, mais faut le rappeler, c'est basique, mais.
C'est exceptionnel, certains l'oublient.
Voilà.
C'est vrai en plus.
Donc que tu veux pas faire passer des messages, tu passes par l'intermédiaire des médias traditionnels qui sont encore aujourd'hui les plus efficaces, n'en déplaise aux influenceurs amis de Walid. Mais c'est la vérité. Je veux dire, donc aujourd'hui, coach de l'OM, t'es obligé. Et d'ailleurs, quand tu regardes les coachs récents de l'OM, ceux qui avaient la meilleure cote auprès des supporters, c'est ceux qui avaient la communication, on va dire, la plus fluide ou la plus efficace.
Après, comme tu l'as dit,
même parfois dans l'excès, type Bielsa qui regardait ses pompes.
Oui, d'accord, mais la communication, elle a ses limites. Le juge de paix, c'est le terrain, quand même.
Oui,
bien sûr. Non, mais ça, on dit pas le contraire. On dit juste que la com peut être un aspect important pour t'intégrer.
Bien. Aujourd'hui, oui.
Tu vois.
Oui.
Mais Bielsa était très apprécié par les supporters pour sa communication,
Bielsa,
différente.
C'était la sincérité, en fait.
Mais Bielsa lui parlait ballon.
Par contre, tu vois, t'avais Rudy Garcia qui racontait des pipeaux. Voilà. Là, tu le voyais tout de suite.
Bah, Oui, et certains joueurs, je citerai pas de nom, avaient le même avis que les journalistes au final, en disant ouais, mais Rudy, je l'aime bien, mais il m'a un peu endormi parce que il était capable de me prendre 20 minutes pour me dire t'inquiète pas, ça va aller, tu vas jouer, je vais te mettre à gauche, à droite, t'auras ta place. Et finalement, bon, c'est il avait un peu ce côté de catcher qui lui a été reproché, même si il était quand même respecté par les joueurs, mais sa manière de communiquer avait ses limites avec la presse et avec les joueurs. Mais tu vois, Bielsa par exemple, il était très aimé parce que moi je le faisais pas, mais je pense que j'aurais été capable de me refaire des confs de Bielsa après le boulot, parce qu'il était très intéressant, même Sampaoli il l'était. Donc la com, chacun avec ses spécificités, ça a marqué l'étape de certains coachs à Marseille.
Et peut-être que l'after a modestement contribué à tout ça, c'est que le discours de coach d'il y a 15 ans qui pouvait en gros te la faire à l'envers ou te sortir des banalités,
c'est plus possible
parce que en fait la compréhension foot et a vachement évolué parmi les le public,
bien sûr,
et à Marseille, bon bah voilà, comme on dit à Marseille, on connaît le ballon, bon bah tu la fais pas à l'envers aux supporters.
Et puis même si aujourd'hui on peut critiquer les réseaux sociaux et les influenceurs, comme vient de le dire Gilbert, mais aujourd'hui tout est disséqué, toutes les déclarations reprises de Gattuso ou de Luis Enrique ou d'un autre coach précédemment, et c'est commenté. À l'époque, il y avait pas tout ça. À l'époque, il y avait pas de pression sur regardez, ils viennent nous prendre pour des imbéciles après le match qu'ils viennent faire, après la tactique qu'ils viennent faire. Ça fait tout de suite tollé rapidement, parce que les gens, c'est vrai, ont une compréhension fou. Je sais pas si elle est meilleure qu'avant, mais en tout cas, elle est beaucoup plus présente.
Moi, je me souviens, bon, Flo, peut-être aussi, je me souviens des interviews de Goethals. En fait, Goethals, il disait rien.
Ouais. Il avait rien, mais parce qu'il avait pas besoin de dire, en fait, parce que rien n'était. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Personne commentait, personne réagissait. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone.
Et après, peut-être que Tapie disait aux journalistes, de toute façon, laisse tomber, vu que c'est moi qui décide. Non,
mais si un supporter ou un observateur a vu rouge. Sur le terrain, et que le coach 30 minutes après le match nous dit qu'il a vu blanc, il y a beaucoup de réactions, et ça peut jouer contre lui à un moment donné s'il y a répétition sur l'incohérence.
Bon voilà, on a fait un peu de décryptage média aussi aujourd'hui, bon, enfin,
mais c'est important, voilà. Tu sais que Deschamps, par exemple, qui a été qui est très critiqué pour sa com, enfin je pense que c'est l'un des
La langue de bois éternelle.
Oui, mais tu vois, à l'OM, j'ai souvenir d'un bon Deschamps en communication. Enfin, là, on est plus sur notre ami Gattuso, mais j'ai l'impression qu'il avait fait l'effort parce qu'il savait que voilà, c'était un endroit très médiatisé, et qu'il fallait parfois avoir la petite punchline, etc. Là, c'était peut-être un peu forcé pour Gattuso. Je le trouve naturel, mais je vous donne rendez-vous. Je pense que il y aura parfois des éclats de voix, et cette sincérité qu'on a pour le moment, on a la version un peu positive, parce que tu disais voilà, c'est les 100 premiers jours présidentiels, et pour le moment globalement ça va bien. Je le souhaite pas pour l'OM, mais à mon avis il y aura des périodes plus compliquées avec Gattuso, et il faudra aller aux questions qui fâchent, et je pense qu'il est capable de s'énerver, mais cette sincérité là, elle est à double tranchant, et je pense que ça ne nous posera pas de problème ni à lui ni aux supporters, ni encore moins à nous, d'avoir un Gattuso s'il doit me lâcher moi ou un collègue parce qu'il a pas aimé la question, mais il y aura pas de problème. Mais je pense que cette sincérité là, elle va animer un petit peu le mandat de Gattuso, que lui souhaite prolonger l'année prochaine. D'ailleurs, c'était sa première phrase, j'avais bien aimé, moi, sa première conférence de presse. Il dit cash, il dit on a intérêt à être dans les quatre, parce que moi mon contrat il en dépend, si on est dans les quatre, c'est un an de plus pour moi. Donc voilà, je pense que certains coachs l'auraient pas dit comme ça. Lui il l'a dit cash, il a dit voilà, moi je veux être en Ligue des Champions, parce que si on se qualifie, c'est plus une année de contrat. Donc j'aime quand il y a une simplicité, une sincérité comme ça.
Merci Florent, merci Walid. Merci, prochain podcast After Marseille, la semaine prochaine.
RMC After Marseille.